France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Deux invités aujourd'hui pour nous dans des genres, mon Dieu, très différents. L'une plutôt tournée vers le XXe siècle, l'autre par le baroque. Vous ne connaissez certainement pas leur nom, non pas qu'elles ne soient pas connues au moins dans un ou deux milieux, mais elles sont très jeunes toutes les deux et viennent de nous donner deux disques absolument formidables, pas ensemble, mais séparément. Nous serons dans cette émission avec Vanessa Benelli-Moselle et Leïla Chayeg. Prélude de l'allemand de cette seconde sonate de l'opus 2, numéro 2 d'Antonio Caldara. Vous ne connaissiez pas cette musique, c'est bien normal, mais reconnaissez qu'elle était bien belle. Surtout jouée ici par Amandine Beyer et Leïla Chayeg, entre autres. Elles ont réuni autour d'elles un ensemble instrumental. Le disque Tout Caldara des trios en sonate. Non, c'est des sonates en trio, c'est l'inverse. Est paru il y a peu chez Glossa. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Quelle surprise ce disque quand même. Alors je dois rendre quand même à César ce qui est à Gaëtan. C'est un critique de diapason, Gaëtan Nolo, que j'ai croisé l'autre jour et qui m'a dit mais ce disque est formidable, comment peux-tu ne pas le connaître? Voilà, donc il m'a dit, va écouter ça. Il est tout nouveau, il faut dire, voilà, j'étais pardonnable. Si je ne connaissais pas ceci, c'est que Caldara est relativement peu connu quand même. C'est pourtant l'un des grands compositeurs pour le violon. À chaque fois, finalement, qu'il nous arrive un disque autour de lui, on est étonné de voir une musique aussi belle, aussi expressive.
Oui, non, mais je les trouve vraiment sublimes et super. Lui-même, il était violoncelliste.
Ah oui.
Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup, au fond, il a fait beaucoup, beaucoup d'opéras. On ne connaît pas trop encore la musique de chambre. Mais on a découvert ça un peu en cherchant quelque chose. On nous avait demandé de faire un disque pour la Scola où on enseigne les deux.
Mm-hmm.
Scola, Amandine et moi,
laquelle,
la Scola Cantorum,
voilà,
à Bâle.
À Bâle.
Et puis c'est aussi pour ça qu'on a eu la possibilité de faire un joli ensemble un peu autour des collègues, de profs et des gens qui ont aussi passé à la Scola à un moment. Et on a cherché d'abord un peu chez Corelli, mais puis c'était l'année Corelli et on disait qu'il y avait tout le monde qui faisait les sonates en trio de Corelli. Alors puis on cherchait un peu autour. Et on était tout contents de notre choix.
De tomber sur Caldara.
Voilà.
Vous dites, l'intérêt de la Scola, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de musicologues, des participants. C'est un lieu formidable pour travailler pour les, entre guillemets, baroqueux, hein, la Scola Cantorum.
Ah oui, oui. Non, mais c'est toujours... Moi, j'adore de travailler là. Parce qu'il y a vraiment, n'est pas seulement les musiciens, mais aussi les musicologues. Il y a toujours quelqu'un qui peut répondre aux questions sur la... historical performance, ou des choses comme ça, voilà. Non, mais c'est super.
Ah ouais. Vous êtes professeur, donc, là-bas? De quoi, d'ailleurs?
De violon baroque.
Ah, ouais,
ouais.
Musique de chambre aussi, non?
Oui, évidemment, j'ai pas vraiment un pensum de musique de chambre, mais évidemment, s'il y a quelqu'un qui fait un master ou cherche de montrer un peu ce qu'il fait en musique de chambre, je suis là pour les écouter.
Et Amandine Beillère, donc, qui joue avec vous sur ce disque, elle est aussi prof à la Scola.
Voilà,
je crois que vous avez, en quelque sorte, hérité de la même classe. Hein.
Voilà. On a les deux pris l'ancien poste Chiara Panchini.
Mmh. Et qui est parti à la retraite il y a combien, 3 ans, 4 ans,
non, hein. Ça fait 5 ans.
Ah, déjà
fait, voilà, on fête nos 5 ans.
D'accord.
Là, ensemble. Et voilà, c'est pas vraiment qu'on partage la classe, au fond, c'est que chacune a une classe. Il voulait plutôt avoir, au lieu d'une personne, il voulait avoir deux maintenant. Et je trouve que ça fait sens parce qu'on est quand même, on a les mêmes idées. Ça se montre aussi, je trouve, dans le disque, ça se voit bien parce que ça se mélange tellement bien. Mais moi, quelquefois, je peux pas dire qui c'est.
Ouais, qui joue.
Et
ce qui est assez émouvant là-dedans, pourtant, pardon, c'est que vous êtes toutes les deux d'anciennes élèves de Chiara Panchini,
voilà,
c'est ça, hein?
Voilà. Ouais. Mais ouais, mais c'est je trouve on peut discuter si c'est une bonne idée ou pas, mais je trouve c'est aussi beau de continuer avec ces traditions. Il le faisait aussi déjà avant avec des autres gens d'autres instruments, des profs qui sont tellement liés à l'école que c'est vraiment aussi un esprit au fond qui
Absolument.
Se porte en avant. Et c'est très beau et ça se travaille super bien ensemble avec Amandine.
Ah ouais, avec des c'est classes qui s'héritent cool. En quelque sorte.
Voilà.
Moi, c'est une assez belle chose. Voici donc les deux professeurs presque nouveaux, 5 ans de la Scola réunis autour de Caldara. Un nouvel extrait, alors pour une autre encore. Alors là, vous allez voir, c'est dans une sonate où on alterne l'adagio, le presto, l'adagio en à peine 2 minutes 20. Vous avez cité Corelli, c'est un petit peu à cette mode-là.
Thank you.
La 12e sonate de l'opus 1 d'Antonio Caldara, des sonates en trio jouées par Amandine Beyer, Leïla Chaïeg, alors je précise quand même quels sont les autres protagonistes
évidemment.
Qu'on retrouve au fur et à mesure, Jonathan Pesek, Jörg Andreas Bötticher, Matthias Speter qui sont là, qui alternent selon les besoins et les pièces. On est vraiment dans cette idée de la sonate soit da Camera, soit da Chiesa qu'on a chez Corelli aussi, cette alternance aussi d'orgue, de clavecin.
Bon, c'était deux opus et on a fait un choix des deux. Pour faire un disque assez coloré, je trouve ça a bien réussi.
Ah oui, absolument. Alors le premier opus, justement, c'est le tout premier, l'opus 1, de notre auteur jour, Antonio Caldara. On est à Venise en 1693, pour être précis. Pourquoi on parle de Corelli, d'ailleurs, depuis le début? C'était tellement important pour lui?
Non, mais je trouve quand même les styles, ils sont assez proches. C'est tous les deux italiens, tous les deux, c'est un peu la même forme, je trouve que c'est encore très 17e dans le style aussi, c'est pas vraiment ces grands mouvements. C'est même précis, mais je trouve c'est beau.
Corelli avait édité ses opus juste avant, c'est ça, enfin très peu de temps
avant
Caldara.
C'est possible, mais lui il a fait 4. Et de Caldara, il y en a juste 2. Mais voilà. Ils sont bons.
Si on parle un petit peu de vous pour vous découvrir, Leïla Chaïeg, parce que je ne vous connaissais pas avant que vous entriez dans ce studio tout à l'heure. Vous venez d'où, Chaïeg, d'ailleurs, ça vient d'où?
Mon père, il est iranien.
D'accord.
Voilà. Et la mère est suisse. Et je suis née en Suisse.
D'accord. Et qu'est-ce que faisait votre papa en Suisse, justement? C'était un voyage? Était-il travaillé là-bas?
Non, pas du tout.
L'histoire familiale, c'est indiscret, mais bon.
Bon, non, ici à Paris, on pourrait le dire parce qu'ils se sont rencontrés sur la Notre-Dame.
C'est pas vrai?
Oui, d'accord. C'est vrai, comme touriste. C'est le grand histoire de la famille. Et non, il est venu en Europe pour faire les études. Et voilà, il a rencontré ma mère. Ils ont essayé d'aller vivre en Suisse pour être un peu proche d'une partie de la famille. Et voilà, c'est comme ça que ça fait que je suis suissesse.
D'accord. Et vous êtes liée aussi à l'Iran ou vraiment vous considérez comme suisse?
Alors, mais c'est quoi l'identité? C'est une grande question.
C'est celle qu'on choisit après tout.
Moi je me considère plutôt comme européen, je dois dire, européenne, dans la culture, mais quand même à tout ce qui me lie à l'Iran avec les tapis, les parfums, la langue, que moi malheureusement je parle pas, mais j'adore l'écouter. Et les poèmes, la musique. Et
je note d'ailleurs que vous avez amené un disque aujourd'hui, Leïla, c'est un disque de musique iranienne d'ailleurs. Racontez-moi ce que c'est.
Bon, c'est un disque que j'ai découvert un peu pour moi et que j'ai écouté pendant un certain temps, vraiment beaucoup. Mm-hmm. Et que d'ailleurs, je l'ai même utilisé pour mes étudiants, pour montrer un peu le vibrato super naturel qu'on utilise même encore sur le violon baroque au fond. Un vibrato qui est plutôt un ornement qui se trouve aussi dans cette musique super traditionnelle et que je trouvais très beau de faire le lien.
D'accord.
Et c'est une musique qui me touche.
Pardon,
excusez-moi,
je vais arrêter. Vous dites vibrato naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on aurait un vibrato qui ne l'est pas?
Ouais, pour moi peut-être, ouais. Non, mais disons, c'est un vibrato qui est plutôt un ornement qui est là pour faire une note plus belle et pas de donner une base au son constamment.
C'est pas le vibrato systématique, qui vient de temps en temps quand on en a besoin pour enrichir.
Exactement.
On va écouter ceci. Donc, qui sont les musiciens qui sont là, et puis au violon, donc on entend qui?
Bon, en violon, il y a personne, mais il y a beaucoup de chants, il y a deux, voilà.
Ah, donc vous utilisez le chant pour illustrer le vibrato au violon?
Évidemment.
Ah oui, je sais pas, moi, je demande.
Non, mais si vous regardez tout, si vous lisez tous les essais, de ce temps aussi du baroque, du 17e, 18e, vous trouvez vraiment dans tous les traités, vous trouvez les descriptions de ce que c'est le vibrato, comment il faut le faire, surtout quand il faut pas le faire, et que c'est tellement lié au chant ou aux cloches, par exemple. Mozart, il dit qu'il faut faire un vibrato juste sur une note vraiment super belle, ou à la fin d'une longue note, de la manière comme une cloche commence à vibrer un tout petit peu à la fin avant qu'il s'éteint.
D'accord.
Voilà.
Et c'est ça qu'on peut essayer de retrouver ici.
Voilà.
این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت بریده در عاشقی در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از راز خود برکندم دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم عقل و دل و اندیش را از بی خوبون
L'ensemble d'Aftan avec Shah Ramnazeri de la musique iranienne, c'était le choix que vous nous apportiez aujourd'hui. Leila Chaya, vous me dites bien, vous n'avez strictement rien à voir avec l'Iran maintenant, évidemment, parce que vous n'y avez jamais grandi ni rien. Voilà. Enfin, quand même, quand vous utilisez un modèle pour la musique ancienne, enfin celle qu'on appelle baroque, ben, c'est quand même ce modèle-là, comme quoi, ça laisse quelque chose de très...
Bon, modèle, trace, hein. Le modèle, c'est juste... Pour montrer aussi d'où ça vient, d'où ça vient la naturalité, voilà, du vibrato. Mais à part de ça, je trouve vraiment c'est un super disque.
Mmh,
il est très beau, mais on ne peut pas l'écouter trop parce que sinon on devient complètement dépressif.
Ah bon ?
C'est quand même la poésie d'amour super triste hein, tout le temps. Alors c'est pas quelque chose pour le quotidien.
C'est ça. Vous étiez juste voilà. Une fois de temps en temps.
Voilà.
Une petite touche. Comment vous êtes venu au baroque, Leila ? Vous avez commencé par le violon de grand répertoire ? C'était immédiatement la musique ancienne.
Non, moi j'étais une de ces violonistes qui travaillait 6 à 8 jours, 8 heures par jour. Mmh. Et puis j'ai fait un parcours assez grand. À un moment, j'étais au sein de l'orchestre de l'Opéra de Zurich. Mais le violon baroque, finalement, ça m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Et le moment où j'étais dans cette, j'étais arrivée là où tous les musiciens veulent être, moi, je me suis rendu compte qu'au fond, c'était pas le fin de mon chemin. Et je me suis décidée de continuer les études et de quitter l'orchestre de nouveau après 2 ans.
Vous aviez quel âge à cette époque-là?
Quand j'ai quitté, j'avais 26 ans.
Ah, bah, d'accord. Ouais. Vous avez décidé de tout refaire.
Ouais.
Marrant.
Voilà.
Pourquoi c'était pas vraiment pas votre truc, là?
Bon, il y avait des je dois quand même dire, il y avait des différentes raisons. L'un, c'était qu'il y avait tellement de gens, c'est un peu dur à dire, mais il y avait quand même des gens qui étaient frustrés, qui voulaient plus jouer, et ça m'a vraiment, moi, je venais avec beaucoup plein d'enthousiasme, et je me voyais juste pas rester là 40 ans. Et mais évidemment, il y avait aussi les autres personnes qui sont super contents parce qu'ils ont non plus le besoin de s'exposer sur scène. Ce que moi j'avais plus tôt. Et puis, l'Opéra de Zurich, c'est un des orchestres où on bosse vraiment le plus dans tous les théâtres de l'Europe, je crois. Alors, dans 2 ans, j'ai fait 60 opéras différents.
Ah oui?
Oui, mais j'imagine pas 60 spectacles,
pas
évidemment.
Pour une seule représentation,
mais 30
bien sûr,
là, oui. Opéras différents par an.
D'accord.
Et ce qui m'a cassé les oreilles. Mais bon, non, mais
c'est
mais vraiment, vraiment, j'avais des problèmes. Je ne pouvais plus jouer pendant une demi-année.
D'accord.
Et puis je me suis décidée de vraiment, voilà, saisir ce moment et de faire ce qu'au fond j'avais déjà toujours dans la tête, et d'aller plutôt vers le baroque, où les pièces sont plus courtes, il y a moins d'instrumentistes, alors moins de pression aussi,
aussi,
et
oui.
Ça m'a, je crois, vraiment, franchement, ça m'a sauvée.
Et donc c'est à ce moment-là que vous êtes allée dans la classe
de Chiara.
D'accord,
voilà.
Enfin, relativement tardivement.
Ouais. Et c'est là où j'ai rencontré Amandine. Ah non, c'est pas vrai. Amandine, je l'ai déjà rencontrée avant, quand j'étais chez Raphaël Olek, encore déjà à Bâle, avant de passer à l'opéra. Et elle était chez Chiara en ce moment.
D'accord.
Alors ça fait
parce qu'elle était une baroqueuse un petit peu plus ancienne, elle, c'est ça?
Voilà. Elle a commencé, on a quasiment le même âge, mais elle a commencé finalement 10 ans avant moi.
Ah, c'est ça. Drôle de parcours quand même, enfin intéressant d'ailleurs de se dire qu'à un certain moment on prend un embranchement et puis on va complètement ailleurs.
Ouais, mais ça fait du bien.
Ah, ça je comprends, oui. Vous en aurez d'autres embranchements comme ça dans votre vie? Est-ce que vous voyez déjà quelque chose?
Là en ce moment, j'ai plus envie, non?
Non.
Moi, je trouve, j'ai trouvé mon truc.
Le baroque donc.
Ouais, non, mais on peut toujours s'enfoncer dans des autres choses ou faire un peu des. Quelquefois, je fais aussi la musique contemporaine. Quand il y a quelqu'un qui veut faire un truc avec moi, ou par exemple, je fais aussi des crossovers d'une manière spéciale avec un flûtiste qui fait la flûte bouddhiste japonaise.
Ah ouais.
On a un programme où lui, il fait la musique du 13e siècle bouddhiste japonaise et moi, je fais du bar solo.
D'accord. Alterner tout
voilà,
ça.
Voilà, voilà.
Évidemment,
moi, je reste dans le baroque, mais je trouve que c'est quand même un programme super intéressant aussi pour le public de voir un peu les différentes manières de se mettre au fond dans la religion, parce que je trouve par toujours ça a un grand sens religieux.
On va revenir à Calda et à cette magnifique chaconne qui referme votre disque avec Amandine.
Thank you.
Belle musique, hein, très sereine, qui nous raconte plein de choses. Cette chaconne en si bémol d'Antonio Caldara, extrait de son opus 2. C'est la 12e pièce qui referme le volume. Et c'était donc au violon Leila Chayeg, Amandine Beyer, Jonathan Pezek, Jörg Andreas Bötticher et Matthias Speter sur ce disque qui est paru sur le label Glossa. Fort beau disque. On est bien content, en tout cas, de l'avoir reçu. Leila pour découvrir aujourd'hui. Et il y avait d'autres projets d'ailleurs ou non. Il y a un autre disque qui sort en même temps qu'on aura peut-être le temps d'écouter tout à l'heure d'ailleurs, consacré à Gaspar Fritz. C'est qui Gaspar Fritz?
Alors Gaspar Fritz, il était un sublime violoniste et il y avait des gens qui disaient même qu'il était meilleur que Locatelli. Et vu qu'il était basé à Genève, c'est le seul concerto pour violon baroque.
D'accord.
Suisse.
Suisse.
Voilà.
D'accord.
Il faut en profiter. Voilà.
Mais il était suisse ou allemand, lui?
Non, il était suisse. Hein. Il était vraiment considéré comme genevois.
D'accord.
Et je le trouve super, ce concerto. Il y a un capriccio tout à la fin, un peu style Locatelli. C'est vraiment vachement dur. Je crois qu'il a essayé plein de choses aussi dans la composition qui sont peut-être pas aussi réussies comme chez quelqu'un d'autre, mais c'est quand même, je trouve, c'est la musique super aimable et moi j'ai bien profité de le faire.
Alors c'est sur la belle musique suisse, on en reparlera tout à l'heure peut-être si on a le temps, dans la toute dernière partie de cette émission, ce volume que vous consacrez à Gaspar Fritz. Mais là, voici qu'il est 12h30.
France Musique.
J'avais prévu une deuxième invitée, je l'avais promise. Eh bien, la voici, Vanessa Benelli-Moselle. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je ne vous connais pas non plus, pas plus que Leila, avec qui on a fait connaissance depuis le début de cette émission. Vous nous proposez un disque sur lequel on va revenir, bien sûr, un peu plus tard, et sous le double titre Évolution, Révolution. Un disque très surprenant, parce qu'il y a plein de Stockhausen dedans. Et c'est toujours surprenant, Stockhausen, bien sûr. Mais avant vous, Vanessa, je ne vous connais pas avec un nom comme le vôtre. Ça vient d'Italie, chez vous, non?
Oui, je viens d'une ville près de Florence, en Italie, en Toscane.
D'accord. Vous avez étudié où? Là-bas, Florence?
J'étudiais à Imola pour 11 ans, après au Conservatoire de Moscou, Tchaïkovski, et après à Londres, au Royal College of Music.
D'accord. Pourquoi vous êtes allée à Moscou? C'est étrange de passer de l'Italie à Moscou. Enfin, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui vous a amené là-bas?
J'ai fait un masterclass d'ailleurs à Paris. Ouais. Avec le chef du département des pianos du conservatoire Tchaïkovski, Michael Voskresensky, qui m'a ensuite invité à étudier au conservatoire chez lui.
D'accord. Et donc vous avez travaillé à Paris aussi?
J'ai fait un masterclass avec Michael Voskresensky.
D'où le fait que vous parliez très bien le français.
Merci.
Mais vraiment très bien. Expérience à Moscou, ça vous a plu? C'était comment? Parce qu'on dit toujours que c'est une vie complètement folle là-bas même, mais surtout quand on est au conservatoire.
Oui, c'était très dur au début, car la Russie, ça peut être un endroit très difficile à habiter, surtout quand j'avais 19 ans. Je connaissais personne, pas la langue russe. Et, donc j'étais loin de mes parents. Il faudrait un visa pour retourner tout le temps en Italie. Donc je ne pouvais pas rentrer quand je voulais et je devais présenter tout le temps un visa au conservatoire pour rentrer s'il y avait des concerts. Ouais. Donc j'étais à Moscou pour 3 ans et au début c'était très dur. Mais enfin j'adorais et ça m'a manqué beaucoup après.
C'est vrai?
Oui.
Et Londres, vous avez aimé?
Oui, beaucoup. C'était très différent.
Ouais.
De Moscou. Mais j'ai continué mes études avec Dimitri Alexiev, un professeur russe du conservatoire de Moscou.
D'accord.
À Londres.
Alors, vous êtes quasiment de l'école de piano russe, hein. On va dire les choses comme ça. S'il existe encore des écoles, ça c'est une question sur laquelle on ne va pas tenter de répondre aujourd'hui. Votre disque, donc, il paraît chez Decca. Il nous propose, entre autres choses, Stravinsky.
Thank you.
La danse russe, premier des trois mouvements de Petrouchka d'Igor Stravinsky, adapté par le compositeur lui-même et joué par ici. Vanessa Benelli-Moselle sur son dernier disque qui est arrivé chez Decca. C'est connu comme étant ces trois danses de Petrouchka, enfin ces trois mouvements, pardon, l'une des pièces les plus, l'un des cycles les plus difficiles pour le piano, en particulier pour ce qu'on vient d'entendre, et puis pour le troisième mouvement, la semaine grave, dont on aura un extrait tout à l'heure. Vous confirmez que c'est impossible à jouer au piano?
Oui, c'est très difficile et je considère les trois mouvements de Petrouchka son chef d'œuvre pour piano qui n'était pas en fait nous pour piano c'était composé pour orchestre,
ah oui.
Mais il y avait une grande partie de piano et je pense que la transcription au piano ça rend vraiment bien.
Ah oui, ça rentre très bien, oui, en effet. Mais enfin, c'est redoutable, quoi. Faut arriver à le faire, quand même, hein.
Oui.
Au programme de ce disque, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'essentiel et c'est le cœur du Stockhausen. Alors là, c'est très rare, puisque vous enregistrez moins une pièce, la sixième, les neuf premiers Klavierstück de Karl-Heinz Stockhausen. Alors, il faut remettre les choses dans l'ordre, Vanessa. Vous avez rencontré le compositeur, en fait, il y a une dizaine d'années, c'est ça?
Oui, je l'ai rencontré en 2006, après avoir enregistré les Klavierstück 1, 2, 3, 4 pour une émission de RAI Radio 3 en Italie. Et le journaliste Mario Bortolotto, qui est un ami de Stockhausen, m'avait conseillé de donner cet enregistrement à Stockhausen, qui était en Italie le jour après pour la première des Freude pour 2 heures. À Milan, dans la cathédrale.
C'est ça, oui, c'était un événement important, parce que je m'en souviens déjà de ce qu'il avait fait. On avait beaucoup parlé à l'époque hein,
de
cette création.
Beaucoup de gens qui attendaient de lui saluer après les concerts.
Mmh.
Et j'ai attendu aussi et je lui donnais mon enregistrement.
Et du coup, vous avez travaillé ensemble après. Enfin, vous avez travaillé quoi? Les Klavierstück, justement?
Oui, Klavierstück d'abord. Oui.
D'accord. Et il était comment alors dans le travail? Parce que moi, je l'ai rencontré 2 fois, Stockhausen. C'était toujours très impressionnant. C'était un drôle de personnage à la fois.
On
savait qui c'était, mais très simple d'abord. Comme ça, on pouvait lui parler sans aucune difficulté. Hein.
Oui, d'abord, il est très, très impressionnant et très intimidatoire de parler et surtout de jouer en face de lui.
Ouais.
Et c'était très intéressant. Je considère un privilège d'avoir étudié ces morceaux avec lui, d'avoir ces signes dans les partitions.
Ah oui, vous avez écrit sur la partition aussi?
Oui.
Ah
oui,
d'accord.
Il était très précis et... il savait bien, il voulait que respirer avec voulait que j'ai respire avec lui dans sa façon de compter, de sentir les rythmes et les tempos. Ouais.
Sacrée expérience, j'imagine. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, le premier Klavierstück de Karl-Heinz Stockhausen, tel que vous le jouez là. C'est une pièce importante parce qu'on est là au tout début, je crois, dans les années 50, c'est ça, juste au sortir de la guerre. Hein.
Oui.
Et c'est parmi les premières pièces de Karl-Heinz Stockhausen dans un contexte qui est à la fois politique, esthétique, très particulier.
Oui.
C'est une pièce d'un sérialisme total, on va dire. Hein. C'est-à-dire que chaque
note
a sa hauteur, son rythme, son intensité, tout ça.
Et aussi, il y a beaucoup de pointillisme de l'école de Darmstadt. Qui a ensuite beaucoup développé après Anton Webern.
Thank you.
Premier Klavierstück de Karl-Heinz Stockhausen, joué par Vanessa Benelli-Mosel sur son disque intitulé Révolution ou Évolution. Je ne sais pas, elle va me dire ça dans juste un instant. Comment vous avez fait pour cette note d'ailleurs? J'ai l'impression qu'elle tient au-delà de ce qu'un piano peut tenir réellement, Vanessa. Non, tout simplement, c'est une note du piano telle quelle qui durait très longtemps.
Oui, c'est une couronne. Mais comme Stockhausen n'aimait pas les couronnes romantiques, il faut quand même arrêter les sons. Et là, c'est un espace qui sépare le deuxième clavestuc.
D'accord, c'est ça. Ah oui, parce qu'on enchaîne en fait toutes les pièces ici. Hein. Il avait pensé pour qu'on les enchaîne d'ailleurs lui aussi. En tout cas, c'est les quatre premières, je crois. Comme
oui,
ça,
les quatre, hein. Oui, c'est ensemble.
Alors, le titre de ce disque qui paraît chez Decca, je l'ai dit, Évolution, mais avec un R devant, entre parenthèses. C'est pour dire que les deux peuvent se rejoindre à un moment, c'est ça?
Oui, en fait, ce titre, c'était suggéré par Carole Beffa. Il s'agit de tracer l'évolution du parcours musical du XXe siècle, qui était marqué par beaucoup de révolutions musicales, culturelles et pas pour dernier politiques. Donc j'ai commencé du premier Stravinsky qui nous montre sa Russie avec trois mouvements des Petrushka, avec des thèmes traditionnels russes, pour devenir autour des années 20 néoclassique. Enfin, son évolution dans les années 60, devient rencontre les surréalismes après la mort de Schoenberg. Et il est beaucoup impressionné par Gruppen de Stockhausen pour trois orchestres.
C'est vrai qu'on ne représente pas toujours les choses, mais en effet, Stravinsky a été très à l'écoute, évidemment, des jeunes loups des années 50, hein, en particulier Boulez, on le sait bien. Vous me dites bien également Stockhausen, oui.
Oui, en fait, Stockhausen et Stravinsky qui s'influencent l'un avec l'autre pendant leur vie. Et je trouvais ça très intéressant. Stockhausen qui écoute encore adolescent La Sarthe du printemps, il reste évidemment étonné. Et Stravinsky qui vient en contact avec les dodécaphonismes et les surréalismes. Et donc, Stockhausen comme artiste les plus révolutionnaires des années 50-60.
Ouais, tout ça se rejoint un peu. C'est quand même très bien quand on peut travailler avec un compositeur, non, Leïla Chaïeg.
Ah oui, ça serait super sympa si je pouvais faire la même chose.
Avec Caldara, par exemple. Mais vous faites du 20e siècle, vous m'avez dit, vous aussi, de la création aussi.
Ça arrive.
De temps en temps.
Ça arrive.
Quand ça se présente.
C'est bien, ça fait plaisir d'avoir une fois le...
Il y a beaucoup de compositeurs qui s'intéressent aussi aux instruments, entre guillemets, anciens.
Ça vient de plus en plus.
Ça vous intéresse, vous, ça?
Ça dépend comment. Et voilà, moi je trouve, même là, on voit au fond si une pièce tient ou pas. J'ai déjà eu des pièces où je trouvais vraiment ça marchait pas. Et des autres, je peux même pas dire pourquoi. Ça a une fin et ça va jusqu'au bout et c'est vraiment une grande chose. Et ça fait plaisir. C'est évident. C'est cool aussi de travailler après avec les compositeurs.
Bien sûr. Alors, Carole Beffa, lui, est bien vivant, justement. Hein, il est aussi présent sur ce disque, puisque vous évoquiez son nom tout à l'heure, Vanessa Benelli-Mosel. Là, c'est une suite pour piano ou clavecin. C'est étonnant qu'on fasse aujourd'hui, c'était bien, évidemment, monnaie courante, on va dire, dans les dernières années du XVIIIe siècle, mais qu'on fasse une pièce sans spécifier si c'est l'un ou l'autre, alors qu'évidemment, les questions des intensités sont très fondamentales, se dit-on, a priori. Mais j'imagine que c'est très volontaire chez le compositeur.
Oui, cette suite, c'était composée en 2008 pour un concours des clavecins. Et ça peut être joué aussi au piano. Et je trouvais intéressant de réunir ces deux compositeurs, Stockhausen et Carole Beffa, qui ont d'ailleurs des vues très opposées sur l'évolution de la musique dans les mêmes disques.
La Ténébreuse, c'est très couperin ça, hein, façon couperin.
Thank you.
La ténébreuse de la suite pour piano et clavecin de Carole Beffa, hommage certainement à Couperin en effet. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, je supposais ça, mais est-ce que vous l'a dit? Oui, c'est ça. Hein,
oui, absolument. Comme il explique Carole Beffa même dans la préfation, c'est inspiré par les pièces pour clavecin de François Couperin qui donne les titres avec des adjectifs féminins à la place des titres traditionnels de les danses baroques.
Oui, pour faire des portraits. Donc, oui. La volubile, la ténébreuse et à la fin,
on a même
la déjantée. Oui. Ça, c'était pas très 18e siècle, la déjantée, mais ça peut se comprendre aujourd'hui, puisque c'est la musique d'aujourd'hui, justement. C'était donc Vanessa Benelli-Mozel qui était au piano ici sur son disque. Est-ce que vous comptez enregistrer le reste des Klavierstück de Stockhausen tant que vous êtes parti, parce qu'il ne doit plus en rester tant que ça maintenant?
Oui.
Oui, vraiment? Non, ce sera pour le deuxième album?
Deuxième, peut-être troisième.
D'accord.
Aussi.
Parce que c'est une musique comme qui est redoutable, il faut être fou de s'atteler à ça. Pour en faire une fois de temps en temps, ce que font parfois les pianistes, très bien, mais faire l'intégrale comme ça, ça veut dire qu'il faut de sacrés moyens.
Oui, peut-être il faudrait les mélanger avec quelque chose d'autre, comme j'ai fait dans ce premier enregistrement.
Et oui, pas faire simplement une intégrale Stockhausen, mais montrer que ça a des liens avec d'autres. Si vous pouvez faire des liens d'ailleurs avec d'autres choses, Stockhausen, là on a bien compris avec Stravinsky, il y avait le fait qu'ils sont connus, donc il y a des liens biographiques, mais vous pourriez le mettre avec quel autre compositeur, Stockhausen?
J'ai pu les mettre avec Mozart, par exemple.
Ah bon?
Ou Beethoven.
D'accord.
Oui.
Beethoven,
Mozart, il avait grande admiration pour ses compositeurs. D'ailleurs, il avait aussi écrit des cadences pour les concertos pour clarinette ou flûte de Mozart.
Oui, absolument. De Haydn aussi, il a fait ça.
Et Beethoven aussi, parce que ça reprend la forme, la première école de Vienne, ensuite la deuxième école de Vienne et le développement de la deuxième école de Vienne à Darmstadt, où il était enseignant.
Ah ouais. Vous dites les questions de forme, oui en effet, la forme est très ouverte, on dit parfois dans ces Klavierstück, c'est-à-dire que sous le même titre, finalement, on a des pièces qui sont extraordinairement écrites, où tout doit être écrit et tout doit être réalisé par le pianiste ou la pianiste à la note près, vraiment avec beaucoup de scrupules, et puis il y a d'autres pièces, on sait qu'ils sont, enfin je ne dis pas qu'on fait ce qu'on veut, mais enfin il y a beaucoup de liberté.
Absolument, dans les premiers 11 Klavierstück, Stockhausen développe le langage de la deuxième école de Vienne et les cours qu'il donnait à Darmstadt. Mais après, avec les Klavierstück 12, 13, 14, il développe sa façon de s'exprimer.
Ah ouais. Et plus personnel, c'est ça?
Beaucoup plus personnel et d'une façon... presque nouvelle tonalité, néotonale.
Il vous l'a dit tout ça? Enfin, vous avez discuté de toutes les pièces avec lui?
Oui, pendant les courses des Courtins, j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup, beaucoup de répertoires des Stockhausen, aussi que ces morceaux avec électronique, et de découvrir vraiment tout l'univers, pas seulement les morceaux pour piano.
Enfin, c'est bien tout ça. Vous pourriez faire que du Stravinsky, du Mozart, du Beethoven, vous faites du Stockhausen, c'est une fort bonne chose. On en est bien content. Allez, on va fermer cette émission en écoutant le dernier des trois mouvements de Petrouchka. C'est la semaine grasse. La marionnette facétieuse Petrouchka dans ses trois mouvements pour piano d'Igor Stravinsky. La semaine grasse, jouée par Vanessa Benelli-Moselle sur son dernier disque d'Eka. Le titre Évolution, Révolution, c'est comme vous voulez. Déjà un disque prévu, Vanessa, qui va sortir en début d'année prochaine, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord, très bien. Vous savez ce qu'il y aura dedans déjà ou
On est en train de discuter le programme.
Ah voilà, c'est ça, ça se discute un petit peu. Concert pour vous du côté de Montélimar au festival de, vous m'avez dit comment?
Tolignan.
Tolignan, ah, ça je ne connais pas du tout, à côté de Montélimar. Vous serez avec Alain Meunier?
Oui, Alain Meunier. Je jouerai aussi la suite pour piano de Carole Beffa. Ensuite, 4 mai et Équateur des chemins.
Et ça, ce sera le 1er de août. Et puis le 27 août, vous serez avec Henri Demarquette au Festival de La Baule. Et puis pour vous, Leïla Chadiag, ben là encore un disque, mais là, vous sortez d'enregistrement, vous. Hein.
Oui, on a fait quasi 4 jours, 3 jours et demi, je crois.
En
Allemagne,
disque.
Pour faire le premier double disque, le quatrième avec Jörg Hallobeck, le claveciniste avec qui j'ai déjà fait 3 disques. Et on a fait finalement un répertoire bien gras, les sonates pour clavecin et violon de Bach.
D'accord, ça c'est beau, ça faut l'enregistrer un jour obligatoirement.
Oui, évidemment, et c'était le bon moment et... Je crois qu'on a fait un bon travail.
Et ce sera à sortir, ça, donc, chez Pan Classics, Pan, comme on dit aussi. Hein, le prochain concert pour vous, la semaine prochaine, 11 juillet, au Festival de Singe, le festival de l'ami Philippe Hervec. Vous serez avec Stéphane MacLeod, qui est un magnifique musicien. En duo, c'est ça?
Non, il y a aussi des autres, mais on fait, entre autres, du Bieber, le Nisi Dominus. J'ai assez de faire, je crois.
Très bien. Merci à toutes les deux de votre visite.
Merci.
Merci.
Cette émission a été préparée par Aurélie Moreau, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Hélène Langlois et Victor Buton.